Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Nous l'avons vu, et vous nous l'avez montré avec beaucoup de perspicacité, l'administration électronique transforme en profondeur l'activité de l'administration, de ses agents, de ses services, et les relations entre l'administration et les usagers, et voire même les relations entre les différentes administrations entre elles. On le voit ainsi, plusieurs pans du droit sont ou devraient être soumis à ces transformations. Et tout le monde a noté au passage que les coffres-forts électroniques ont désormais de l'avenir. Je disais à l'instant que plusieurs pans du droit sont soumis à ces transformations et le droit fiscal n'y échappe pas. C'est ce que va nous démontrer tout de suite M. Gilles à travers son intervention « Les transformations du droit fiscal par le numérique ». Donc, M. Gilles est le co-directeur. Monsieur Gilles est le co-directeur de ce master et maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et assure la présidence de l'Institut du Monde et du Développement. Monsieur Gilles, vous avez la parole.
Merci Madame la Présidente. Le droit fiscal est ancien. Les premières règles que l'on pourrait rattacher à l'impôt figurent dans les livres sacrés. Pourtant, malgré cette ancienneté, la fiscalité n'a pas fait en soi l'objet d'une grande évolution. Depuis lors, les principes, les modalités de détermination de l'impôt restent les mêmes. Elles sont simples. Et les législateurs ont pu par la suite adapter des règles visant à déroger ces principes fondamentaux, mais les modalités restent essentiellement les mêmes. Autrement dit, la fiscalité est par essence aujourd'hui la même que celle... est par essence la même que celle qui existait lors de ces textes anciens. Alors, quelle est cette essence? Cette essence consiste tout simplement, pour des raisons d'intérêt général, à contraindre une personne physique ou morale, appelée contribuable, à payer une somme d'argent correspondant à une imposition qui sera prélevée par une administration au service de l'État ou au service d'une collectivité publique. Cette situation conduit à identifier quatre critères fondamentaux du droit fiscal. Le premier critère, c'est un champ d'application. Le deuxième, c'est une base imposable. Le troisième, un taux. Et le quatrième critère, une administration pour recouvrer les recettes. Ces quatre critères soulèvent à leur tour quatre questions fondamentales. Qui paie l'impôt? Sur quoi l'impôt est-il prélevé? Pour quel montant? Et enfin, selon quelle modalité, autrement dit, à qui et comment l'impôt doit-il être payé? Nous allons voir que ces quatre préoccupations sont affectées par le numérique, conduisant à repenser le droit fiscal du numérique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, si les principes du droit fiscal restent les mêmes, ils doivent être appréhendés du point de vue de ces transformations à l'ère du numérique. Et ce débat revêt certes une certaine actualité, mais ceci étant, ce n'est pas un débat qui est complètement nouveau, puisque on le retrouvait déjà à la fin des années 1990, et notamment en 1998, l'OCDE avait rendu un rapport qui soulignait l'importance de l'apparition du commerce électronique, et qui appelait un changement structurel de première importance, puisque l'OCDE soulignait que cette transformation était appelée à transformer profondément le monde, et que, bien évidemment, cela devait impacter la manière dont on concevait la fiscalité, en particulier sur les activités de commerce électronique. L'évolution ainsi constatée incite à s'interroger sur les transformations du droit fiscal à un double titre. D'une part, en ce qui concerne la législation fiscale, d'autre part, au regard de l'administration fiscale. Alors, en ce qui concerne le premier aspect, c'est-à-dire l'impact du numérique sur la législation fiscale, cet impact se traduit, se matérialise par une grande difficulté à identifier la matière imposable, mais également par l'apparition de nouvelles impositions. Alors, en premier lieu, l'apparition accroît la difficulté à appréhender la matière taxable au niveau de plusieurs aspects, se pose en premier lieu le problème des comptabilités, du contrôle des comptabilités informatisées des entreprises qui sont assujetties à l'impôt. Les entreprises ont désormais la possibilité de tenir leur comptabilité grâce à l'outil informatique. Par le passé, elles le faisaient grâce à l'outil papier. Ce changement induit des conséquences en matière fiscale, notamment en ce qui concerne le contrôle, tout simplement parce que l'administration fiscale ne dispose pas des mêmes possibilités de contrôle lorsque l'entreprise va tenir sa comptabilité grâce à un logiciel ou lorsqu'elle va tenir sa comptabilité grâce à l'outil papier. Autrement dit, lorsque l'administration fiscale va contrôler une entreprise grâce à une comptabilité tenue par le biais du papier, elle a la possibilité de s'assurer que l'entreprise n'a pas modifié entre-temps les écritures. Lorsqu'elle va contrôler une comptabilité informatisée, c'est plus difficile tout simplement parce que l'entreprise a la possibilité de modifier à tout moment les écritures comptables qui posent des véritables problèmes en ce qui concerne le contrôle. Alors, la France et l'administration fiscale française est consciente de cette difficulté. C'est la raison pour laquelle elle a publié en 2006 une instruction fiscale destinée à mieux prendre en compte cette évolution et à essayer de mieux appréhender l'écriture informatisée de la comptabilité des entreprises. Pour vous donner des chiffres, il faut savoir que 10% des redressements qui débouchent sur des pénalités exclusives de bonne foi, sont liées justement à cette comptabilité informatisée, donc sont liées au fait que les entreprises ont la possibilité de manipuler ces outils informatiques, et donc dans 10% des cas, ça donne lieu du redressement. Le problème est appelé certainement à perdurer parce que les éditeurs de logiciels refusent pour l'instant de fournir des produits qui seraient garantis anti-fraude. L'administration fiscale a demandé à ses logiciels, à ses éditeurs de logiciels de prévenir le problème en offrant cette garantie, et pour l'instant, les éditeurs de logiciels le refusent. Alors, cette comptabilité informatisée, c'est un problème, mais ceci étant, ce n'est pas le problème principal en matière de fiscalité, puisque le problème principal, la préoccupation majeure, c'est de pouvoir identifier le contribuable qui est redevable de l'impôt. Et là encore, le commerce électronique pose un certain nombre de difficultés et peut constituer une illustration parfaite. Dans cette matière, en matière de commerce électronique, la base imposable est relativement volatile. Et du fait de cette volatilité, on a certains contribuables ou certaines personnes qui devraient être contribuables qui se sentent à l'abri de la législation fiscale, autrement dit qui fraudent, et qui ne vont pas déclarer leurs activités. Alors parfois ils le font de mauvaise foi et parfois ils le font en toute bonne foi, tout simplement parce qu'ils pensent pas, ils n'imaginent pas que les activités d'achat-revente qu'ils font sur Internet doivent être soumis aux règles fiscales comme toute activité de commerce. Donc cette incivilité fiscale est une réelle difficulté aujourd'hui. Elle est une réelle difficulté d'autant plus que ce genre d'activité se multiplie que face à la multiplication de ces activités, l'administration fiscale n'a pas suffisamment de personnel pour opérer un contrôle exhaustif en la matière. Alors d'où l'intérêt de la création d'un statut comme celui d'auto-entrepreneur, puisqu'on va le voir que la création du statut d'auto-entrepreneur a permis de lutter contre cette fraude fiscale, ou en tout cas d'endiguer cette incivilité fiscale. La volatilité de la matière imposable suscite une autre difficulté, c'est la difficulté d'identifier le lieu de rattachement de l'opération fiscale. Autrement dit, la difficulté d'identifier le pays bénéficiaire de l'impôt. Par exemple, lorsqu'une entreprise n'est pas domiciliée dans l'Union européenne, aux États-Unis, par exemple, en Asie, et que cette même entreprise revend des prestations, sert des prestations ou revend des marchandises à un client français, la question se pose, quel doit être le pays qui est bénéficiaire de l'impôt. Là, tout dépend de l'existence ou non de conventions avec ces pays. Mais ceci étant, là encore, la législation connaît une certaine adaptation. Et par exemple, l'Union européenne a adopté depuis 2002 une directive sur la TVA qui permet de prendre en compte ce régime particulier des activités de commerce électronique. Alors, ce régime de 2002, au départ, était transitoire. Et comme souvent, ce qui est transitoire devient définitif. Et depuis le 1er janvier 2010, ce régime particulier en matière de commerce électronique, de TVA et de commerce électronique, est devenu définitif. L'impact du numérique du droit fiscal sur le droit fiscal se manifeste non seulement par une adaptation de la législation, mais ça se manifeste également par l'apparition de nouvelles recettes fiscales, de nouvelles mesures fiscales. Alors, en premier lieu, il faut évoquer les mesures fiscales qui sont incitatives. Ces mesures fiscales incitatives sont destinées à renforcer l'économie numérique. Par exemple, sans être exhaustif, le législateur a créé ces dernières années un crédit d'impôt pour la création des jeux vidéo. Les entreprises innovantes ont également la possibilité de bénéficier du crédit d'impôt recherche. Par ailleurs, les entreprises innovantes récentes, celles qui ont moins de 8 ans d'activité, bénéficient d'un statut fiscal et social particulier puisqu'elles ont la possibilité d'avoir une exonération de l'imposition pendant 3 ans, puis de 50% pendant les 2 années suivantes. Et elles sont également exonérées de certains impôts, notamment impôts locaux, si les collectivités territoriales le souhaitent. Alors, parmi les mesures fiscales significatives, il faut également noter, je vous l'ai dit, la création du statut d'auto-entrepreneur. Ce statut d'auto-entrepreneur permet notamment à l'internaute détenteur d'un e-commerce, le cas que je vous ai cité tout à l'heure, d'exercer ses activités, cette fois-ci dans la légalité, en respectant ses obligations fiscales et sociales. Et pour ce faire, le législateur a introduit un régime fiscal et social assez avantageux à destination de l'auto-entrepreneur. Et notamment, cet auto-entrepreneur bénéficiera d'une législation fiscale qui sera allégée avec des tâches, des démarches administratives qui seront simplifiées. Alors, il faut savoir que la création de ce statut d'auto-entrepreneur a eu un impact. Quand je vous ai dit que ça permettait de lutter contre la fraude, ce n'est pas anodin. C'est tout simplement parce qu'on a des statistiques, et notamment des statistiques qui sont récentes, puisque lors d'un rapport qui vient d'être remis récemment au secrétaire d'État chargé des PME, 23% des auto-entrepreneurs affirment avoir saisi l'occasion de professionnaliser une activité qui était déjà exercée grâce à ce statut d'auto-entrepreneur. Donc, dans 23% des cas, le statut d'auto-entrepreneur a permis de légaliser une activité qui existait déjà, et notamment les activités qui sont exercées par le biais du commerce électronique figurent en bonne place dans ces statistiques. Le législateur n'a pas seulement institué des mesures fiscales incitatives destinées à renforcer l'économie numérique, il a également décidé de se servir de ce secteur pour se procurer de nouvelles ressources. Autrement dit, l'économie numérique ne permet pas simplement de bénéficier des avantages fiscaux, mais dans certains cas, l'économie numérique va servir de support pour remplir les caisses de l'État. Ceci étant, si on fait le bilan coût-avantage, ce secteur est quand même davantage bénéficiaire que contributeur, notamment dans le cadre du grand emprunt. On sait qu'un certain nombre de crédits vont être octroyés à ce secteur. Alors, pour vous prendre un exemple récent qui a été médiatisé, c'est le régime de TVA qui est applicable aux offres qu'on appelle les offres triple play. Vous savez, c'est les offres... j'allais citer le nom de la box. Donc les box Internet, que ce soit les grands opérateurs publics ou privés. Ces box, jusqu'à présent, faisaient l'objet d'une fiscalité qui était dérogatoire, tout simplement parce que une partie de ces offres bénéficiait du taux de TVA réduit, d'un taux de TVA à 5,5%, au lieu du taux de 19,6%. Le gouvernement a souhaité augmenter le taux de TVA, ce qui fait que la TVA va passer à 19,6%. Il faut savoir que le fait que le taux de TVA soit réduit représentait un coût non négligeable pour les finances publiques, parce qu'on avait 24 millions d'euros en 2006, le coût, 24 millions d'euros en 2006, contre, et ces 24 millions d'euros en 2006, c'est passé à 800 millions d'euros en 2010. Donc on est passé de 24 millions à 800 millions en deux ans, et l'année prochaine, si rien n'était fait, on passait à 1 milliard d'euros. Donc on comprend la volonté de changer la législation. Le ministère du Budget a également souhaité que les opérateurs de téléphonie mobile taxent l'ensemble de leurs factures à 19,6%. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les opérateurs de téléphonie mobile ont une double facturation de la TVA. Une partie de la TVA est à 5,5% pour ce qui concerne la télévision. Et par contre, pour le reste des prestations, c'est 19,6%. Et donc, la volonté est de remonter l'ensemble de la fiscalité à 19,6%. Alors, bien sûr, ça permet de faire des rentrées d'argent pour l'État. Alors, en ces temps de crise, c'est bienvenu, mais il ne faut pas y voir malice. Ce n'est pas l'argument du gouvernement. L'argument du gouvernement, c'est de dire que il a des injonctions de la part de l'Union européenne et qu'il faut répondre aux injonctions de la part de l'Union européenne, puisque ce système fiscal dérogatoire déroge aux directives TVA. Donc c'est bien pour respecter le droit communautaire que l'État a choisi d'augmenter cette TVA, qui permettra quand même des rentrées fiscales. Alors il a envisagé pendant un premier temps également d'imposer la TVA, d'imposer la télévision payante, ce qui aurait permis une rentrée d'argent d'un milliard d'euros, dont 450 millions d'euros uniquement pour Canal+. Canal+ doit être un lobby relativement assez important, puisque finalement cette mesure fiscale n'a pas été respectée. Alors, plus rapidement, le deuxième aspect de l'évolution du droit fiscal concerne l'administration fiscale. Tout simplement parce que le numérique conduit à la mise en place d'une e-administration fiscale. On va véritablement vers une e-administration fiscale. Ça passe par la modernisation des procédés de déclaration et de recouvrement. Alors, ça connaît un succès relativement important, puisque l'année dernière, 10,4 millions de contribuables français ont télédéclaré leur impôt sur le revenu. Donc 10,4 millions contre 7,4 millions deux ans auparavant, ce qui veut dire une augmentation de 40% en trois ans. Alors, c'est important, mais ceci étant, la marge de manœuvre reste importante, puisque on a, alors j'ai fait le calcul hier pour avoir les chiffres les plus actualisés, on a 36 390 288 foyers fiscaux en France. Donc on voit que sur les 36 millions, il n'y en a que 10 millions qui recourent à la télédéclaration. Sur les personnes qui télédéclarent les revenus, il y en a un peu plus de 10% qui n'ont eu aucune modification, ce qui veut dire que l'administration fiscale a un certain nombre de renseignements dont elle dispose. Ces renseignements sont en ligne et le contribuable a pu, en trois clics, procéder à sa déclaration. Quand on dit trois clics, c'est réellement trois clics. Si vous n'avez aucune modification à faire, il vous suffit d'appuyer trois fois sur oui et vous avez télédéclaré vos revenus. 70% de ces télédéclarants, par ailleurs, n'ont pas eu recours à de certificats électroniques, c'est-à-dire que pour se connecter sur les serveurs de l'administration fiscale, il suffisait simplement de connaître le montant, le revenu fiscal de référence, ainsi que le numéro de télédéclarant, puis une troisième donnée, parce que je n'ai pas le temps de développer. Je vois que le temps passe. Faut savoir quand même que le contribuable qui télédéclare a un certain nombre d'avantages. Alors, l'avantage le plus conséquent, c'est qu'il dispose de 20 euros de réduction. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas l'avantage le plus conséquent, mais c'est quand même un avantage notable. Il dispose de 20 euros de réduction d'impôt, mais uniquement la première année. Mais ceci étant, on a vu les statistiques montrent que le télédéclarant ne télédéclare pas uniquement la première année, mais qu'il poursuit même après cet avantage fiscal. Il dispose également de délais supplémentaires et par ailleurs, il n'a pas à fournir à l'administration fiscale de pièces justificatives. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas conserver les pièces justificatives, parce qu'en cas de contrôle, bien sûr, il devra fournir ces éléments. Donc, c'est quelque chose qui est un avantage certain pour les contribuables qui télédéclarent. Les contribuables qui ne télédéclarent pas ne sont pas exclus de cette réforme de l'administration, puisque, en fait, ils ont désormais la possibilité de bénéficier de déclarations pré-remplies. C'est-à-dire que même s'ils ne vont pas sur Internet, ils vont pouvoir bénéficier de cette numérisation des données, puisque l'administration fiscale va leur faire parvenir une déclaration fiscale qui contiendra un certain nombre d'éléments. La difficulté, c'est que ces éléments concernent le revenu imposable, concernent les données personnelles, et donc se pose la question de étudier ce matin, c'est-à-dire sur la conservation et sur les problèmes de réutilisation de ces données. Autre modernisation en matière de fiscalité, c'est ce qui concerne le paiement. Le paiement peut désormais se faire par voie numérique grâce à un télépaiement. Ce télépaiement est facultatif pour les particuliers, il est obligatoire pour les entreprises. Les entreprises les plus importantes, notamment les entreprises qui ont plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, ce chiffre va être abaissé à 230 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe l'année prochaine. Donc toute entreprise qui aura un chiffre d'affaires supérieur à 230 000 euros hors taxe aura l'obligation de télépayer ses impôts, ses principaux impôts. Autre innovation, et c'est lié, Georges tout à l'heure parlait du coffre-fort, finalement l'administration fiscale est également relativement avancée en la matière, puisque l'administration fiscale met à la disposition des particuliers et à la disposition des entreprises ce qu'on appelle un espace abonné. Et cet espace abonné permet d'avoir toute une série de services. Et les services qui sont fournis par l'administration fiscale sont relativement importants, puisque notamment le contribuable va disposer d'une documentation importante avec de la jurisprudence, avec des déclarations, des fichiers qui pourront être téléchargés, mais également l'administration fiscale met désormais au service du contribuable toute une série de simulateurs qui permettent au contribuable de calculer le montant de son impôt, qui permettent au contribuable de savoir s'il est concerné ou non par le bouclier fiscal. Alors tout ça c'est gratuit, je vous invite à faire des simulations et si vous voulez savoir quel montant vous devez payer d'impôt et quel montant vous devez gagner pour bénéficier du bouclier fiscal, vous pouvez aller sur le site www.impots.gouv.fr, faire les simulations à partir de ce soir et vous pourrez voir donc si vous avez le droit au bouclier fiscal actuellement. Donc, ces simulateurs concernent les particuliers, ils concernent également les entreprises. Autrement dit, on le voit, l'administration fiscale met à disposition des services à destination du contribuable qui s'apparentent à celle d'un conseiller fiscal. C'est véritablement des services équivalents à ceux d'un conseiller fiscal, à la différence près l'administration fiscale doit fournir une information qui est objective, une information qui est neutre, et en aucun cas l'administration fiscale ne pourra vous permettre d'optimiser vos impôts. Là, c'est le conseiller fiscal qui intervient de nouveau pour optimiser l'impôt, puisque, bien sûr, ce n'est pas le rôle de l'administration fiscale. Alors, pour conclure, on voit que cette e-administration a rencontré des évolutions profondes ces dernières années et qu'elle est véritablement au service du contribuable. Mais ceci étant, cette e-administration fiscale n'est pas exempte de bugs. On a eu un certain nombre de bugs ces dernières années, on a eu un certain nombre de lenteurs. Moi-même, pour avoir essayé, je me rappelle avoir été énervé parce qu'on n'a toujours pas la possibilité de payer par une carte bleue. Par exemple, pour le contribuable particulier, celui qui veut télédéclarer, on vous dit télédéclarer, sauf que pour télédéclarer, en fait, il faut imprimer un papier et ce papier, il faut le renvoyer à la banque. Donc, il y a encore, bien sûr, un certain nombre d'innovations à faire, puisqu'on pourrait, à terme, véritablement aller vers le genre de service qui est fourni aux entreprises pour véritablement aller vers une télédéclaration, télépaiement plein. Et par ailleurs, autre lenteur et autre bug qui peut exister, c'est tout simplement la volonté de certains esprits mal intentionnés aujourd'hui de se servir de l'image de l'administration fiscale. Et vous avez peut-être tous reçu ou entendu parler de ces mails, de ces emails qui circulent et qui se font passer pour l'administration fiscale. Et se faisant passer pour l'administration fiscale, vont vous demander vos coordonnées bancaires. Si vous donnez vos coordonnées bancaires, vont prélever en lieu et place de l'administration fiscale ces sommes d'argent. Donc ça, c'est un véritable problème pour l'administration aujourd'hui, puisqu'on voit que des tiers peuvent se servir de l'image de l'administration à des fins crapuleuses. Mais là encore, l'administration fiscale est consciente de ce problème. Et si vous allez sur le site internet du ministère des Finances, du ministère des Budgets et des Comptes Publics, vous pourrez voir en pleine page qu'il y a un avertissement justement concernant la circulation de ces courriers électroniques frauduleux et sur les recommandations qui sont données aux différents contribuables pour éviter d'avoir à fournir ces éléments d'information. Je vous remercie.